Africa.
La grande matinale avec Phil Le Montagnard sur Africa numéro 1.
Troisième et dernière partie de cette grande matinale, on va s'intéresser à un ouvrage assez exceptionnel, Reggae Ambassadors, 100% reggae français. Si vous vous rappelez, hein, il y a 2 ans, on recevait déjà Monsieur Alexandre Grondeau pour nous présenter le fameux Reggae Ambassadeur. On était en Jamaïque cette fois. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, bonjour Phil.
Alors cette fois-ci, c'est un bel hommage au reggae français.
Ah, exactement, c'était le pari qu'on avait fait ensemble il y a 2 ans. Sachant que si le film et le livre Reggae Ambassador, la légende du reggae dédié à la route jamaïcain était un succès,
ouais,
on rendrait hommage au reggae français, à l'adaptation de cette musique jamaïcaine en métropole et dans nos départements et territoires d'outre-mer. Et donc c'est ce qui a été fait. Le film La légende du reggae a obtenu le prix Charles Cros,
ouais,
au festival Bab El Med. Et on a eu beaucoup, beaucoup de retours sur le travail qu'on avait fait. Donc, on a été très contents de se mettre à la tâche pour offrir ce Reggae Ambassador 100% reggae français.
Est-ce qu'on peut dire que c'était une suite logique ?
C'était une suite pas forcément logique au niveau du business plan. Hein, quand tu parles à l'éditeur et au producteur, disons que ce sont des projets qui coûtent très cher.
Mm-hmm.
Donc, la suite logique, c'est si ça marche. Vu que ça a marché, c'était dans ma tête évident de pouvoir rendre hommage à l'underground et au milieu alternatif du reggae français.
Alors on part des premiers pas de Pablo Master, Daddy, King Daddy Odd, des squats parisiens du début des années 80. Mais en laboratoire, comment vous avez travaillé ? J'aimerais comprendre, parce que bon, vous n'avez pas forcément vécu cette époque avec ces artistes-là. Mais ça se passait comment, justement ?
Alors déjà, c'est gentil de rappeler que je suis jeune encore et que j'étais pas là dans les squats des années 80.
Non, avec eux, je veux dire, avec
bien
les
sûr.
Artistes.
Non, mais tu as raison. Bon, c'est vrai que le travail est un travail de longue haleine, puisque cette année on a fêté en parallèle les 20 ans de reggae.fr que j'ai créé en 1998, et donc depuis cette période là j'ai fréquenté les milieux du reggae, le mouvement reggae, mm-hmm, en particulier français, notamment à Paris. Donc j'ai fréquenté les Ragasonic, j'ai croisé Naughty, Pablo Master, Daddy Yod et tous ces grands artistes.
Mm-hmm.
Donc en fait au fil du temps la relation de confiance s'est faite. Et elle a permis de déboucher sur un travail intergénérationnel qui, ouais, permet justement de replonger dans une histoire de Paris que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est l'histoire des squats, c'est l'histoire des péniches alternatives, c'est l'histoire de Lord Zelko, de King Dragon, de Stantol, de Paulino, de toute cette génération qui a construit, ouais, en fait le mouvement Sound System et reggae français.
Est-ce qu'on peut dire que ce sont les années d'or justement de ce reggae français, cette époque-là ? Quand je pense à des groupes comme Ragasonic, c'était génial, c'était incroyable.
Les années 90, c'est véritablement les années d'or.
L'âge d'or du reggae.
Ouais, c'est vrai que Ragasonic, c'est une grande explosion. Et puis après, on a Naughty et Pierre-Paul Jacques, les Sinsemilla sont aussi là. Les années 80, c'est un peu plus difficile parce que le mouvement se structure. Et c'est pour ça que j'ai voulu rendre hommage à des grands personnages comme Pablo Master ou Daddy Yod, mm-hmm, ou même les Sai Sai. Parce que ce sont des gens qui ont tout misé, leur vie, leur destin, leur famille dans ce mouvement-là. Et tous n'ont pas forcément récolté les fruits du travail investi. Dans les années 90, comme tu disais, certains groupes et certains artistes des origines du mouvement Sound System vont, mmh, avoir du succès, comme Pierre-Paul Jacques, Naughty ou Ragasonic. D'autres pas forcément, mmh, ou moins. Et donc, c'était bien d'inscrire cette filiation-là pour que les gens qui aujourd'hui écoutent du reggae, en particulier du reggae français, se rappellent que ce mouvement est un arbre avec de très nombreux fruits et qu'il ne faut pas en oublier.
Alors, Reggae Ambassador, 100% reggae français, est une expérience unique, musicale, littéraire, vidéo et photographique qui donne enfin la parole aux artistes de ce mouvement. Est-ce qu'on peut imaginer, je vais peut-être dire n'importe quoi, un Reggae Ambassador 100% Afrique ?
Bah, ce serait, on en avait déjà parlé il y a 2 ans.
Troisième volet.
L'idée pour moi, c'est sûr que c'était de proposer une lecture un petit peu originale de la diffusion du reggae un peu partout, donc en France et puis maintenant dans le monde. J'ai eu la chance, grâce à mon métier de maître de conférences et de critique musicale, d'avoir beaucoup beaucoup voyagé en Inde, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Asie, et sur le continent africain. Et le reggae à chaque fois s'adapte. Maintenant on va régulièrement à l'Abi Reggae Festival à Abidjan. On est allé en Afrique du Sud. Le reggae est très très dynamique en Guinée, au Sénégal, donc il y a de quoi faire. Mmh. Après, c'est toujours pareil, nous on est sur un modèle économique qui ne se base pas sur des subventions, qui est totalement autoproduit en mode do it yourself.
Mmh.
Donc si ça marche, eh ben on réinvestira et on proposera une nouvelle lecture. C'est tout ce qu'on nous souhaite. Et je sais, pour en avoir parlé longuement avec Tiken et Alpha Blondie, qu'ils m'attendent de pied ferme justement pour développer ce projet.
Voilà, c'est très très bien en tout cas. Alors, l'histoire du reggae français a débuté dans les quartiers populaires, on le disait tout à l'heure, dans les cités, dans les ghettos et dans les squats de France et d'outre-mer. Quel est l'artiste que l'on peut considérer comme le véritable pionnier du reggae français?
Alors, s'il y a une personne qu'on devrait sélectionner vraiment à l'origine, c'est forcément Pablo Master, parce que il va en même temps être un moment clé de l'histoire du reggae en France en diffusant la culture sound system, et en même temps, il va avoir un rôle très important dans l'intégration de la langue française dans le reggae. Auparavant, à la fin des années 70, début des années 80, beaucoup d'artistes chantent en anglais. Ils imitent
les Jamaïcains.
Les Jamaïcains ou les Anglais.
Ouais.
Et donc, l'histoire, c'est que malheureusement, le public comprend pas forcément.
Ouais.
Et la diaspora africaine est très importante dans les milieux alternatifs, les squats à l'époque à Paris. Et les Antilles également, d'autres gens de l'underground sont intéressés. Mais l'anglais est quelque chose qui ne permet pas d'accélérer la diffusion du mouvement. Et dès que Pablo Master va proposer de chanter en français et qu'il va convaincre les gens de son crew, de son sound system de le faire, tout d'un coup, c'est vrai que les gens vont s'identifier. Et puis, les artistes sont pas nés à Kingston. Certains sont nés dans des quartiers à Paris, en banlieue parisienne, d'autres à Marseille, d'autres à Lyon. Et ils ont des choses intéressantes à raconter, sans forcément être les copycats, les copies d'artistes jamaïcains.
Alors, à quel moment le reggae français commence-t-il véritablement à se structurer, en étant aujourd'hui une musique importante dans le paysage musical français?
Disons qu'il y a plusieurs étapes. Les années 80, c'est la structuration du milieu underground et sound system. Les années 90, c'est le succès des grands artistes comme Ragasonic, Nutty ou Pierre-Paul Jacques. Les années 2000, c'est plus une période où, étrangement, le reggae français arrive à être totalement absent des médias mainstream. Et donc, il va s'organiser. Et on va avoir des groupes comme Dub Inc, Danakil émerger et
Dub Inc, incroyable.
Ouais. Ils vont commencer à faire à s'organiser, à faire de manière autogérée des festivals, des concerts, des tournées sans médias et pourtant avec un public incroyable, et ça va aller jusqu'à la tournée des Zénith. Et puis depuis 2010, on est sur une organisation qui est vraiment par le bas, autogérée, do it yourself, où le mouvement respecte ces codes-là sans avoir besoin de faire appel à l'extérieur.
Alors, on a parlé tout à l'heure de Pablo Master. Je rappelle quand même qu'il est originaire
du
Cameroun.
Ouais.
Alors, je pose souvent cette question. Qu'est-ce qui peut expliquer cette effervescence qu'il y a toujours autour du reggae? Et pourtant, c'est une musique qui n'est pas, qui n'est plus véritablement diffusée dans les médias. Il y a des artistes qui ont un succès certain, qui sont très connus, mais qui ne sont pas forcément médiatisés.
Disons que je pense que cet état de fait découle de la position de beaucoup d'artistes, de la plupart des artistes reggae qui sont des artistes engagés, militants, activistes, sur des positionnements qui sont pas forcément faciles à traiter au niveau médiatique mainstream. Les artistes reggae sont de manière générale plutôt panafricanistes, sont plutôt altermondialistes, sont plutôt sur des logiques sociales très engagées, antiracistes, pacifistes. Et en fait, la majorité des chansons de reggae sont engagées. Or, on le voit aujourd'hui, pour passer à la radio, il vaut mieux être plutôt sur une posture aseptisée ou plus bling-bling, qui ne gêne personne, et en particulier aucun annonceur. Donc le reggae français, finalement, vit et survit et puis peut s'enorgueillir d'avoir conservé son intégrité, là où d'autres styles underground des années 80-90, comme le rap et la techno, ont eu plus de mal, enfin, sont rentrés dans la vulgarisation et dans la société de consommation.
Reggae ambassadeur, 100% reggae français, Alexandre Grondeau, qu'est-ce qu'on peut véritablement retenir? Parce que c'est un véritable bijou, il y a tellement de choses à dire lorsqu'on est plongé dans la lecture de ces différentes histoires, mais qu'est-ce qu'en substance qu'on peut retenir?
Écoute, moi ce que je crois, c'est que le reggae est une musique vivante, c'est pas une musique folklorique, c'est une musique qui aujourd'hui a beaucoup beaucoup de choses et beaucoup de messages à faire passer, qui est structurée, qui plaît à beaucoup de monde. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que on peut s'en sortir, on peut s'organiser, on peut avancer, même si les grands médias ne parlent pas de nous, et on peut faire de la musique de qualité, dansante et engagée. Donc c'est ça qu'il faut retenir.
Alors pour terminer, le film documentaire, parce qu'il y a le film documentaire, il y a bien sûr ce magnifique ouvrage, la diffusion du film documentaire.
Alors, le film documentaire est offert à tous les lecteurs. Ouais. Donc c'est c'est ce qu'on s'était obligé à faire, comme pour le premier tome sur la légende du reggae sur le jamaïcain, sur le reggae jamaïcain. Ensuite, moi, j'ai commencé une tournée des cinémas d'art et d'essai depuis cet été, puis des festivals. Donc, on est en tournée un peu partout en France pour présenter le film. Et puis, voilà, il y a quelques touches à la télé qui veulent reprendre le bouquin, enfin le film. Mais disons que moi, pour le moment, ma priorité, c'est que le film soit offert à tous les lecteurs du livre.
Voilà. Donc, merci Alexandre Rondeau.
Merci beaucoup, Phil.
Et les minoreux et les renois, c'est vrai. Certains me diront que c'est une banalité. Mais en attendant, beaucoup de nymphas se font. Tes yeux sont bleus, ta peau est blanche, tes lèvres sont rouges. Si je vois un facho devant moi, obligé, faut qu'il bouge. Je me sers de mon micro comme je me servirais d'un ouzi pour éliminer le FN, le PN.